Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Et toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Dans un instant, nous feuilleterons Pactum Salis, le nouveau roman d'Olivier Bourdeau, lauréat du Grand Prix RTL Lire. Il y a 2 ans, l'auteur s'est confié au micro de Bernard Lehu et nous vous offrirons son livre. Au 32-10, parmi les nouveaux talents de la chanson qu'il va falloir suivre cette année, deux chanteuses, Barbara Pravi et Charlotte Cardin. Steven Bellery les a rencontrées. Nous découvrirons leur univers. La maison du compositeur Georges Bizet, située à Bougival, près de Paris, dans les Yvelines, fait l'objet d'une campagne participative pour la transformer en musée. Charlotte Latour a pu la visiter, à suivre son reportage sur les traces du créateur de Carmen, pas la tempête, l'opéra. Et puis Monique Lyonnaise nous emmènera faire un tour au musée des arts décoratifs de Paris. Une rétrospective met à l'honneur la française Constance Guisset, devenue en quelques années une figure incontournable du design.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais avant tout, littérature, jeunesse, avec Laurent Marsic. Bonjour.
Bonjour.
En ce 2 janvier, vous venez très officiellement lancer ici la 3e édition du concours du premier roman jeunesse, Gallimard Jeunesse, RTL avec Télérama.
Exactement, c'est parti pour la 3e édition de ce concours permettant à un auteur jeunesse de voir éditer son premier roman. Pour la 3e fois, RTL s'associe donc à Gallimard Jeunesse et Télérama pour tenter de trouver le ou la nouvelle grande plume de la littérature jeunesse.
Alors comment tente-t-on sa chance ?
Alors déjà quelques règles. Il ne faut pas que vous ayez été déjà publié ici en France ou à l'étranger. On cherche un nouvel auteur jeunesse. Par contre, si vous avez été auto-édité, pas de souci, vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Chaque participant propose un roman en français et qui s'adresse à un public de jeunes lecteurs, enfants ou adolescents. Votre manuscrit doit comporter 80 pages, 120 000 signes. Évidemment, vous ne déposez pas une trilogie, c'est un roman par participant. À partir d'aujourd'hui, vous avez jusqu'au 4 mai pour le soumettre par internet au comité de lecture Gallimard Jeunesse. On va vous mettre tous les détails et le lien indispensable pour ça sur le site rtl.fr. Le comité sélectionnera à partir du 4 mai 3 romans, 3 graines de champion, et c'est donc un jury qui désignera le ou la grande gagnante dont le premier roman sera édité en fin d'année, au moment du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Rendez-vous compte, lors des 2 premiers concours, ce sont au total près de 2200 manuscrits qui ont été envoyés. Beaucoup de romans qui tournaient autour du fantastique, du paranormal, de l'anticipation. La première fois, c'est Christelle Dabos qui l'a emporté. Elle est depuis devenue une écrivaine jeunesse incontournable, avec les 3 premiers tomes de sa saga La Passe-Miroir. Et la lauréate de la dernière édition, Lucie Pierre-Apajot et ses Mystères de l'Arispem, a elle déjà séduit des dizaines de milliers de lecteurs. Ce sont des succès rarissimes. N'ayez pas peur, lancez-vous. Vous faites-nous rêver, faites rêver les enfants, écrivez et envoyez vos manuscrits.
Ah oui, on rappelle donc un premier roman jeunesse à envoyer avant le 4 mai, 80 pages maximum, thème libre, on
totalement
peut écrire ce qu'on veut.
Oui.
Mais vous ne devez pas avoir été édité auparavant. Concours du premier roman jeunesse Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama, c'est donc lancé grâce à vous, avec vous Laurent Marsic. Tous les détails donc sur RTL.fr. Je me tourne maintenant vers Bernard Lehu. Bonjour Bernard.
Bonjour et bonne année.
Et avec vous, bien sûr, bonne année, merci beaucoup. Des livres toujours, mais alors pour adultes cette fois, janvier, traditionnellement, c'est le second temps fort de l'année en librairie après la rentrée d'automne.
Oui, près de 500 romans paraîtront dans les semaines à venir, dont un bataillon de stars, Delphine de Vigan par exemple, qui sera notre invitée jeudi avec vous, Jérôme.
Effectivement.
Ou Pierre Lemaître, que nous recevrons mardi prochain.
Mais le premier événement de 2018, c'est le second roman d'Olivier Bourdeau. Le jeune auteur de 37 ans a fait une rentrée fracassante en littérature, c'était il y a 2 ans, en attendant Bojangles, succès phénoménal, Grand Prix RTL Lire, il publie Pactum Salis aux éditions Finitude.
Alors le titre, un mot sur le titre, il vient d'une expression latine, Amicitia Pactum Salis, l'amitié est un pacte de sel, qui signifie que comme le sel, l'amitié est inaltérable. Est-ce si sûr ? On en doutera beaucoup en lisant la relation chaotique qui va se nouer entre les deux personnages, imaginés par Olivier Bourdeau, dans un décor hautement pittoresque, les marais salants de Guérande en Bretagne.
Je voulais un endroit très particulier, les marais salants s'y prêtaient. J'ai travaillé dans ces marais salants, il y a toute une mythologie, tout un historique des marais salants. J'avais le cadre et je me suis dit, nous allons faire se rencontrer 2 hommes aux ambitions parfaitement différentes, aux caractères parfaitement différents, que va-t-il se passer ? Et j'avais le décor et je voulais raconter une histoire d'homme. Je trouve qu'on en lit trop rarement, qu'on en voit trop rarement dans les films, où il y en a certains, mais et je voulais surtout changer radicalement de ce que j'avais écrit, Bojangles. ce roman n'est pas une réaction à Bojangles, c'est la suite de ce que je voulais faire, tout simplement. Voilà le point de départ de ce roman.
Alors, oui, j'insiste, hein, les Marais Salants de Guérande, c'est en Bretagne.
On va pas ouvrir
Steven
le débat
Bellery,
maintenant.
Je regrette.
Nous n'ouvrirons pas le débat maintenant, je sais qu'il est impossible d'être d'accord. Steven Bellery, Bernard Louis, sur le sujet. Alors, concentrons-nous sur ce livre, merci. Bernard. Qui sont les deux hommes de ce roman au pays des Marais Salants?
En Bretagne. Deux trentenaires. Jean, un ex-parisien. Il a tout plaqué pour devenir paludier, c'est-à-dire récoltant de sel, dans ce qu'on appelle les œillets. Vous savez, ce sont ces bassins des Marais Salants. Et alors là, il y mène une vie simple et paisible. Michel, lui, a fait fortune dans l'immobilier, roule en Porsche, écume les boîtes de nuit, est venu passer quelques jours de vacances dans la région. Le hasard va les faire se rencontrer donc au cœur des Marais.
Jean et Michel sont des versions abouties de ce que j'aurais voulu être à une période. Je ne suis pas eux, ils ne sont pas moi, je souhaitais faire fortune dans l'immobilier, c'est un fiasco. Et j'ai caressé à un moment l'envie de vivre en retrait du monde. Je ne l'ai fait que 4 mois. Voilà. Ces deux personnes-là ont atteint des objectifs que je m'étais fixé un jour et que je n'ai pas réussi à atteindre. Voilà.
Et aujourd'hui, vous avez mal tourné, vous êtes devenu écrivain à succès.
Catastrophique, oui. Genre, je pourrais être agent immobilier, tranquille.
Voilà, alors une amitié fulgurante entre ces deux-là, Jean et Michel, naît de leur différence, une attraction des contraires qui va pourtant très vite devenir mouvementée.
Eh bien, écoutez, déjà parce qu'ils n'ont pas envie de sortir de leur vie, l'un et l'autre, et que cette amitié les fait sortir de leur vie, de leurs objectifs, et puis parce qu'ils ont des caractères trop forts. Je pense que le sexe masculin n'a pas le meilleur rôle dans ce roman. Vous mettez deux hommes, il y a toujours un début de rivalité. Il y a
l'affrontement des mâles.
Mais oui, mais c'est une réalité qui ne cessera jamais. Elle existe depuis la nuit des temps. Parfois, les gens civilisés arrivent à cohabiter. Là, il faut croire qu'ils ne sont pas toujours très civilisés.
D'autant que l'alcool s'en mêle. Mmh. On en consomme beaucoup dans ce roman. Alors j'ai demandé pourquoi à Olivier Bourdeau.
Pour des raisons diverses, il a toujours été présent dans ma vie. Moi,
Vous êtes porté là-dessus,
ouais,
Olivier Bourdeau. Allez, c'est l'heure des aveux.
L'alcool a toujours été présent dans ma famille. Voilà. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je descends des deux côtés, soit d'un marchand de vin, soit d'un vigneron. Ça, ce sont de bonnes raisons. Et je serai plus discret sur les mauvaises. Mais enfin, en tout cas, j'ai, moi, un lien commun avec mon personnage Michel. J'ai une vision programmée de ma consommation de l'alcool. Je décide que je m'enivrerai le vendredi ou le samedi. Et sinon, je ne bois pas. Voilà. Je décide de faire la fête et l'alcool en est la conséquence.
On semble loin, hein, très loin de l'univers poétique d'En attendant Bojangles, le premier roman d'Olivier Bourdeau.
Mais oui, le jeune écrivain le revendiquait lui-même tout à l'heure. Et c'est vrai que Pactum Salis est une histoire âpre, virile, violente, dont Bourdeau dit se sentir plus proche. Il y a du Antoine Blondin, d'un singe en hiver dans ce roman, quand il y avait du Boris Vian, de l'écume des jours, dans En attendant Bojangles. En changeant radicalement de registre, Bourdeau va peut-être dérouter certains de ses lecteurs, mais il confirme qu'il est un écrivain. Un vrai et de talent, en particulier quand il anticipe dès le début du livre la découverte d'un cadavre dans les Marais Salants et nous laisse donc entendre que son histoire d'amitié finira mal, très mal.
Je voulais que le premier chapitre soit une description intégrale des Marais Salants, uniquement ça. J'allais conclure cette description lorsque j'ai décidé, je les ai vus, qu'il y aurait 2 pieds qui sortiraient d'un œillet. Très vite, moi, ça m'a amusé de me demander lequel des deux personnages serait le propriétaire des pieds. J'ai aussi joué pendant un certain nombre de paragraphes avec ça. Je me suis dit que si je ne le savais pas vraiment, j'arriverais peut-être à perdre aussi le lecteur.
Eh bien, Paris brillamment réussi jusqu'à la dernière ligne, je vous le garantis. Mm-hmm. Un art du suspense qu'Olivier Bourdeau associe à celui de la sensualité et de l'humour. Avec alors là un passage d'anthologie où une simple mouche, une petite mouche taquine, elle taquine cette mouche, l'entrecuisse d'une jeune femme endormie sur la plage.
Punaise.
Ah non, pas punaise, c'est une mouche.
Oui, c'était...
quel grand moment.
La mouche est une malédiction. La mouche, lorsque vous êtes sur un paradis terrestre, vous démontre que le paradis n'existe pas tout à fait. Cette fois-ci, cette mouche, dotée d'un vice incroyable, elle conduit au paradis. Elle va servir à activer les cuisses d'une jeune fille sur la plage et grâce à cette mouche, mes deux personnages vont pouvoir apercevoir l'origine du monde. Voilà, mais ils passent quelques pages, effectivement, à observer les mâchoires crispées, le manège vicieux de cette sinistre mouche. Il y a toujours quelque chose d'assez fascinant à apercevoir, quelque chose qu'on ne devrait pas apercevoir.
Avec Pactum Salis, Olivier Bourdeau franchit hein, vraiment brillamment l'obstacle toujours redoutable du roman d'après pour un débutant couronné de succès. Ben voilà, c'est la première bonne nouvelle de ce début d'année 2018 en librairie.
Et alors cette bonne nouvelle, eh bien, on vous l'a fait gagner. Allez. On fait gagner ce roman d'Olivier Bourdeau, publié donc chez Finitude. Et pour cela, il faut répondre à votre question, Bernard.
Alors, dans quel décor pittoresque, en Bretagne ou pas, se déroule Pactum Salis, le roman d'Olivier Bourdeau?
La réponse, c'est au 32-10, pas sur la Bretagne, hein, sur la question du décor, on est bien d'accord, et vous aurez la réponse juste avant 9h30. De la musique, à présent, yes, avec Steven Bellery. Cette semaine, on va prendre des paris. Steven, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous allez nous présenter vos coups de cœur, ceux qui, selon vous, vont marquer cette année 2018. Leurs albums sortiront au cours de l'année. Commençons par les chanteuses. Ce matin, d'abord, Barbara Pravi.
Elle a 24 ans, elle brillait dans la comédie musicale Un été 44. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les premières parties de Florent Pagny depuis quelques semaines. Elle va s'envoler en solo.
Et je sais.
Barbara Pravi a une voix claire, douce, un phrasé délicat au service d'une collection de chansons solides, aux textes ciselés, aux mélodies entraînantes. Son univers, doux, amer, féministe, un poil nostalgique, emprunte tant à la pop qu'à la chanson française.
J'appelle ça de la pop à texte parce que ça allie vraiment les deux choses que j'aime dans la musique. J'ai un vrai attachement pour le français, pour les mots. J'aime jongler avec, trouver des sens, trouver des métaphores. Et j'écris beaucoup, tout le temps, même quand je suis dans le métro sur mon téléphone et tout. Il y avait pas mal de livres à la maison. Mais c'est surtout, en fait, c'est pas bien de dire ça, mais je séchais beaucoup les cours parce que j'étais pas du tout quelqu'un de scolaire. Et quand j'étais chez moi, j'écoutais beaucoup de musique et je lisais beaucoup parce que mes parents avaient plein de livres. J'ai lu beaucoup de Romain Gary, Stéphane Zweig aussi. Moi, je me suis fait ma culture grâce à ça, quoi.
Jusqu'à l'un de mes anniversaires où sont sortis comme des aveux les mots restés trop silencieux. Tu m'as dit que tu étais fière sans en avoir l'air.
Déda, en hommage à son grand-père qui a fui la Serbie de Tito, auteur, interprète, Barbara Pravi puise dans sa vie et ses blessures pour écrire. Elle partage notamment le douloureux souvenir de violence conjugale dans le titre Le Malamour.
Je l'avais sur le cœur depuis longtemps, en fait. Ça m'a beaucoup porté préjudice dans mes relations amoureuses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'extériorise ce qui m'était arrivé pour pouvoir vivre normalement avec en couple ou même dans la société, quoi. Tout me rendait très irritable, en fait.
Cette chanson, elle a quoi? Elle a pensé des plaies?
Je pense qu'elle a contribué en tout cas à la cicatrisation. Mais c'est vrai que moi, ça me fait un bien fou d'en parler. Tout ce que j'avais à raconter, je l'ai raconté dans cet album, quoi, qui est terminé. J'ai le sentiment de devoir avoir vécu les choses pour en parler.
Parce que j'ai confiance en moi, enfin, et qu'elles ne me font pas peur, tes mains. J'ai le malamour, le malamour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. J'ai le malamour.
Elle s'appelle Barbara Pravi. J'aime beaucoup son premier EP qui devrait sortir à la fin de l'hiver et l'album avant l'été.
C'est parce que pour ta peau, je donnerai mon âme à la chaleur de tes mots. Vois mon cœur qui s'enflamme.
Très belle voix, effectivement, Barbara Pravi. De la pop à texte, alors, hein, c'est ça, en un seul mot.
Sans expression.
Voilà. Un autre jeune talent, elle nous vient du Québec et elle s'appelle Charlotte Cardin.
Elle a 23 ans, elle a participé en 2013 à la voix version québécoise de The Voice, plus de 4 ans après, autant dire une éternité. Elle vient tout juste de sortir un EP magistral.
Now I'm stupid. We'll
Charlotte Cardin brasse la pop, le hip-hop, la chanson, l'anglais et le français, un fil rouge, une voix épatante et une écriture d'une grande finesse.
J'ai vraiment grandi dans un univers teinté de toutes sortes de musiques. J'ai grandi à Montréal, alors bon, j'ai toujours baigné dans un univers très bilingue, très influencé par plusieurs cultures différentes. Et je pense que c'est ça qui se manifeste dans ma musique, justement, mais c'est difficile d'écrire sans se censurer du tout, du tout. Alors j'essaie vraiment de me censurer le moins possible quant à la langue ou au style. Je fais juste vraiment sortir l'inspiration comme elle viendra. Mais j'ai un grand penchant pour la musique qui est sombre, qui est mélancolique. Mais ça peut être du jazz, ça peut être de la pop aussi, comme ça peut être du vieux soul, comme ça peut être du Radiohead, justement, super alternatif. Vraiment, j'écoute de tout. Maybe if we try again, big boy, we could have in my way. You nailed my heart to your wall, but it was damaged anyways. Oh.
Elton John l'adore, elle, et qu'elle parle d'amour ou d'amitié, ses tunes, comme on dit chez elle, me bouleversent.
Mes chansons parlent pratiquement exclusivement de relations, pas seulement des relations amoureuses, ça parle aussi de relations d'amitié. C'est tellement quelque chose qui touche tout le monde et même avant que j'aie vécu des ruptures quand j'étais adolescente, ça me passionnait de parler de ça quand même. J'ai l'impression qu'on est tous intrigués, je pense, par les relations interpersonnelles, parce que ça fait des milliers d'années qu'on interagit et il n'y a pas une relation qui est parfaite. J'aime me mettre dans la peau des autres et un peu essayer de créer une histoire autour de ça. Je voudrais se replace, se replacera.
Son premier mini-album EP s'appelle Main Girl. Il est déjà disponible. L'album devrait paraître à la rentrée prochaine.
Merci beaucoup, Steven Bellery, donc pour ces deux découvertes.
Charlotte Cardin.
Les paris sont pris. Merci. On va marquer une courte pause. On se laissez-vous tenter dans un instant. Donnons un musée au compositeur de Carmen, Georges Lemay. Et à tout de suite. Oui.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Jérôme Chapuis, jusqu'à 9h30.
Une petite balade sur les bords de Seine maintenant avec vous, Charlotte Latour. Bonjour.
Bonjour.
Nous partons à Bougival, c'est tout près de Paris, dans la maison où a habité Georges Bizet. Eh bien aujourd'hui, cette maison n'appartient plus à personne. Elle est en vente. Elle est en vente et elle est même menacée de disparition. C'est incroyable cette histoire.
Et oui, Georges Bizet, créateur de l'opéra le plus donné au monde, Carmen, plus de 600 représentations par an sur toute la planète. Et pourtant, Bizet n'a même pas de musée chez lui en France. Il est donc question d'en créer un dans la maison où il vécut et où il est mort. Ressusciter cet endroit pour y créer un musée et une résidence d'artistes en l'honneur de Georges Bizet. L'idée est excellente, mais elle coûte cher. Aujourd'hui, les actuels propriétaires n'ont plus les moyens de la garder. Ils la mettent en vente et c'est pour ça qu'a été lancée une campagne de financement participatif, de crowdfunding, hein, quand on aime les anglicismes. Derrière ce projet, il y a un chanteur d'opéra, forcément, le baryton portugais et parisien d'adoption, Georges Chaminet.
Déjà, cette première étape, donc, qui est la sauvegarde de la maison de Bizet et sa restauration, elle est aux alentours d'1 100 000 euros. Mais on a besoin encore de beaucoup d'argent et on est aujourd'hui à 130 000 euros de contribution. Naturellement, ce n'est pas suffisant.
Charlotte, Bizet n'avait pas d'héritier.
Alors, il avait un fils, Jacques, qui s'est suicidé. Bizet louait cette maison. C'est pourquoi, à sa mort, son bailleur l'a récupéré, puis les enfants du bailleur en ont hérité. Et dans les années 80, une famille, la famille Lemoine, fanatique de Bizet, l'a acheté, conservant la chambre du compositeur presque quasi intacte. Porte toujours fermée hein, quand les enfants sont présents, on ne sait jamais. Mais voilà, aujourd'hui, la maison se retrouve en vente.
Tout le monde peut participer à cette campagne. On peut tous donner de l'argent.
Tout le monde, à partir de 5 euros.
C'est une campagne de financement participatif qui débute à 5 euros et qui va jusqu'à ce que les gens veulent donner. Et quand vous donnez 5 euros, à la fin, vous ne donnez qu'1,3 euro, puisque c'est déductible de vos impôts. Pour les particuliers, c'est 66% de réduction, et pour les entreprises, c'est 60% de réduction.
Charlotte, à quoi ressemble cette maison ?
Eh bien, elle est située entre le charmant chemin de halage boisé le long de la Seine et une grosse départementale très passante. Actuellement, les concessionnaires automobiles ont envahi le secteur. Mais au beau milieu de tout ça, quelques maisons résistent encore à l'envahisseur. Parmi elles, la maison de Bizet, 230 mètres carrés, 4 étages, entourée d'un joli petit jardin. Le bureau du compositeur est une petite pièce toute vitrée face au fleuve et dans la chambre, une décoration typique 19e siècle avec un piano ayant appartenu au maestro. Ah oui. C'est très émouvant de se retrouver dans cet endroit où il a achevé Carmen en 1874 et où il est mort d'un infarctus quelques mois plus tard en 1875. Il avait seulement 36 ans.
Et le jour où la France comprendra que c'est exactement dans la préservation de ses joyaux qu'elle pourra avoir encore plus de touristes, création d'emplois évidente pour que le pauvre Bizet, depuis sa chambre, puisse regarder un centre européen de musique et un auditorium qui porte son nom et pas un showroom de voitures d'occasion.
La bonne action de ce début d'année, sauver le patrimoine français. Et si vous donnez ne serait-ce que 5 euros, eh bien vous verrez votre nom inscrit. Vous verrez, non, presque. Vous aurez votre nom inscrit sur le mur des donateurs dans le futur musée. Vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier toutes les infos sur www.dartagnan.fr/Carmen.
Merci beaucoup Charlotte Latour. Allez, encore un petit coup de Carmen. Et pour accueillir, ça comme il se doit, Monique Younes. Bonjour Monique.
Bonjour.
Entrez en fanfare. Vous nous emmenez donc ce matin aux arts décoratifs qui a été en 2017 The Place to Be, comme on dit, grâce notamment à l'exposition Christian Dior, que l'on peut encore voir, mais alors pour quelques jours, jusqu'au 7 janvier.
Mais jamais les arts décoratifs n'avaient connu depuis leur inauguration en 1905 un pareil succès. Plus de 640 000 personnes sont venues visiter l'exposition Dior, qui restera la plus belle exposition de mode jamais réalisée en France à ce jour. Est la plus visitée également. Et poussée par ce succès, les arts décoratifs ne vont plus s'appeler les arts décoratifs.
Ça alors, comment vont-ils s'appeler ?
Le musée des arts décoratifs.
Ah.
Les initiales, les initiales donnent l'acronyme MAD.
Ah, yes, of course, the reference.
Yes, avec un logo qui déchire et un graphisme qui tue.
Ah, là, bon, on sent les grandes résolutions de début d'année. On ira donc désormais au MAD.
Yes.
Au MAD, pour voir quoi ?
La même chose qu'avant, mais en mieux présenté, car les collections permanentes du MAD sont très très riches, elles vont être mises en valeur et les expositions temporaires toujours plus passionnantes, à l'instar de celle qui se tient en ce moment même et jusqu'au 11 mars, celle de la designer et scénographe Constance Guisset, une des plus en vogue aujourd'hui. Elle a 41 ans, Constance, et après avoir fait l'ESSEC plus Sciences Po, Constance Guisset a hésité un temps entre faire du design ou devenir artiste. Eh bien, elle est aujourd'hui une artiste qui fait des objets. Elle a imaginé une représentation cinématographique pour chacun des objets qu'elle a créés. Le titre de son exposition est « Action » et pour cause.
Action, parce que c'est quelque chose que je dis très souvent. Je dis très souvent « Allez, action maintenant !» Et action aussi, bien entendu, pour l'homonymie avec le sortilège d'attraction dans Harry Potter. Ce moment où les objets sortent du sac, s'animent et se mettent à vivre.
Constance Guisset est une magicienne qui a déjà créé quantité d'objets que j'oserais qualifier de jouissifs. Elle imagine même des objets qui entrent en lévitation, des couverts qui forment des mobiles qui tiennent au bord de l'assiette par enchantement, ou des lampes, comme la fameuse lampe Leviosa, encore un clin d'œil à Harry Potter, qui s'allume par la grâce d'une boule magnétique, une sorte d'interrupteur sans pied ni fil, qui lévite, pour ainsi dire, dans les airs. Démonstration.
La boule est un interrupteur. J'ôte la boule sous la lampe. Donc la lampe s'éteint. Pour allumer la lampe, je mets la boule sous la lampe. Et elle reste en lévitation et la lampe s'allume. C'est quelque chose de très ludique, très amusant. Et en même temps, c'est vraiment une utopie parce que c'est l'absence de gravité. C'est la surprise permanente. C'est la référence à l'univers aussi, aux planètes, aux exoplanètes, etc. Et du coup, c'est comme un tremplin pour l'imaginaire pour celui qui regarde ou qui l'utilise.
Je suis pas sûr que ce soit très pratique. C'est complètement mad.
Mais c'est mad grave, car en plus de ravir le regard, les objets créés par Constance Guisset sont utiles et confortables. Dans une des salles de musée, elle a suspendu une dizaine de lampes Vertigo. Vous savez, son best-seller,
oui,
la lampe
sûr,
que vous
bien.
Adorez. Là. Mmh. Et cette lampe
Sans
Vertigo...
un beau chapeau.
Ah oui, c'est merveilleux. Elle tourne comme ça, elle donne le vertige. Elle les a suspendues, donc ces dizaines de lampes, à différentes hauteurs. Du coup, c'est magique. On a l'impression de se mouvoir dans un aquarium rempli de méduses.
Ah, donc ça reste qu'une impression, ça va.
Mais c'est très beau, vous devez aller voir. Il y a une salle encore plus amusante, presque expérimentale. Constance Guisset a disposé deux fois le même mobilier aux deux extrémités de la pièce. D'un côté, le mobilier est gris et blanc, et de l'autre côté, il est en couleur.
Et... Quand on accroche un espace en noir et blanc, c'est presque plus facile parce qu'il y a, il y a un ordre qui vient de cette non-variété de couleurs. Alors que dès qu'on met des couleurs, les couleurs s'influencent et se rebondissent entre elles et du coup créent des espèces d'interférences qui font que ça a l'air parfois un peu plus désordonné. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une joie terrible en fait, qui émane des lieux qui sont colorés. Les objets ressemblent à des objets de désir en fait. On crée du désir avec la couleur c'est la vie. Même les gens disent, on dirait des bonbons. On est vraiment dans des objets de désir.
Ah oui, et autre initiative de la designeuse, la possibilité de s'asseoir.
Tiens donc, excellente idée, on peut vraiment essayer des fauteuils, des chaises.
Mais absolument, les gardiens du musée ne peuvent rien vous dire, c'est prévu comme ça. Et vous vous rendrez compte du confort des chaises, des fauteuils et autres bureaux. Vous allez aussi pouvoir découvrir les sources d'inspiration qui ont conduit la créatrice à la réalisation de ces objets. Un emballage de bonbons, une photo déchirée dans un magazine, une phrase d'un roman, une sculpture antique, une crème chantilly peuvent déclencher l'idée d'un objet et chacun de nous peut interpréter le même objet réalisé d'une manière différente. Comme cette lampe Cap, l'autre blockbuster de Constance Guisset.
Il y en a qui voient le casque de Dark Vador, il y en a qui voient une robe de mariée, il y en a qui voient une traîne, un oiseau. Tout est possible. On projette dans l'objet sa propre interprétation et son propre désir.
Voilà, à vous de jouer. Axio, l'exposition de Constance Guisset est au MAD, Musée des Arts Décoratifs, jusqu'au 11 mars 2018. Mais complètement dingue.
Merci Steven Bellery. On entend un peu la musique d'Harry Potter qui nous a accompagné pendant toute cette chronique. MAD, merci Steven Bellery pour la traduction. On a beaucoup parlé anglais, le crowdfunding pour Georges Bizet, de l'anglais aussi dans la chanson de Charlotte Cardin tout à l'heure.
Moi, c'était en latin.
Exactement, hein, voilà. Et vous allez nous donner la réponse qui va permettre aux auditeurs de gagner Pactum Salis, le dernier livre
d'Olivier Bourdeau.
Olivier Bourdeau, merci.
Errare humanum
est. Errare humanum est. Voilà, nous marquons une courte pause et la réponse dans un instant.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Bernard Lehu, quel décor donc sert d'arrière-plan au dernier livre d'Olivier Bourdeau, Pactum Salis?
Eh bien, les marais salants de Guérande.
En Loire-Atlantique.
En Bretagne.
Chez moi, en Bretagne.
Je sens que le débat historique, bien sûr.
Le débat va se poursuivre en dehors de ce studio. Nous n'arrivons pas à réconcilier Steven Bellery, Bernard Lehu sur cette question. Voilà, Errare humanum est. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. J'allais bien sûr oublier Olivier Bourdeau. Entretien complet à retrouver sur RTL.fr. Vous nous avez donné envie de lire ce livre tout à l'heure, Bernard Lehu. Merci à vous de nous avoir suivis depuis 7 heures ce matin. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain matin avec toute l'équipe de la rédaction de RTL. Pour le moment, je laisse la parole à Julien Courbet que nous retrouvons.
Merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit. Vous êtes vraiment une équipe formidable. La nôtre n'est pas mal non plus. Je vous la présenterai dans quelques instants, mais là, j'aimerais que vous écoutiez tout de suite ce que Sylvie nous a dit.
J'ai confié l'ensemble de mon déménagement à une entreprise. Elle devait tout me rapatrier en France. À l'arrivée, c'est une catastrophe. Plusieurs de mes meubles sont gravement endommagés.
Et nous allons appeler pour trouver la solution, comme nous le faisons à l'amiable, j'oserais même dire à l'ancienne. Mais là, présentons d'ailleurs ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a la grande Maître Novakovic, avocate pénaliste, droit de la famille au barreau de Paris.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Il y a Maître Fellonneau.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Négociateur Hervé Pouchol.
Bonjour à tous.
Toutes les équipes derrière Charlotte qui étaient là par devant. C'est Céline.
Et non, c'est Céline.
Ah ouais, c'est bien aussi. Excusez-moi. Je suis à un âge où vous êtes à une distance où je n'arrive plus à distinguer qui est qui. Alors, c'est Céline qui est là, c'est formidable. Et là, c'est Sylvie qui arrive. Bonjour Sylvie.
Bonjour Julien.
Vous nous appelez d'où, ma petite Sylvie?
Je vous appelle du côté de Sainte.
Du côté de Sainte. Vous êtes mariée, Sylvie, évidemment?
Non.
Vous n'êtes pas mariée?
Je suis divorcée.
Ah, d'accord, Sylvie. Peut-être en recherche d'un nouveau sponsor. Pas du tout.
Nous
avons un petit carnet de dépannage. Hein. Oh, ah bah, j'en vois. Sachez que Hervé Pouchol, dans ses missions, doit négocier, mais peut aussi, le cas échéant, si vraiment vous, et ça peut arriver, traverser un petit moment de solitude, peut venir s'installer 2-3 jours chez vous. Si
je vais très souvent à Sainte.
Et nous avons remarqué qu'après son passage, 80 personnes, des femmes, chez qui il se déplace, changent de sexualité après, et partent avec une collègue de bureau. Alors, Sylvie, attention, on y va, je vous écoute.
Voilà, alors j'ai déménagé. Je reviens d'expatriation après 35 ans. J'ai une société qui a transporté mes cartons et mes meubles. Et en arrivant, j'ai découvert que mon lit en tech, mon matelas et mon piano ont été endommagés.
Alors ça s'est fait dans les... Alors on sait qu'il y a des règles très précises. Il faut combien de jours pour arriver à s'apercevoir de tout cela, Maître Novakovic ?
Effectivement, elle dispose de plusieurs jours pour le faire, mais simplement, la difficulté de ce dossier n'est pas une méconnaissance des responsabilités de l'assureur. Aujourd'hui, ils ont pris acte effectivement des difficultés, mais ils disent simplement, laissez-nous étudier le dossier. Sauf que cette étude date du 28 août 2017. C'est un peu long quand même,
évidemment.
Aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, on en est là, on est bien d'accord, Sylvie. Ils ne sont pas contre indemniser, ils disent juste qu'il faut qu'on étudie le dossier.
Voilà, c'est ça.
Alors, vous avez essayé de mesurer l'ampleur des dégâts et les réparations, parce qu'apparemment, alors redites-nous exactement ce qu'il y a eu. Il y a eu un matelas, un assortiment commode et table nuit, un piano, oui, qui ont été endommagés. Et ça a été estimé à combien ?
Alors, les remises en état ou remplacements selon les objets se montent à, il me semble, 5 709 euros, si je ne me trompe pas.
Et l'assurance du déménageur a reçu votre dossier le 28 août. Bon, écoutez, c'est clair, c'est net. Quelque chose à dire, Maître Novakovic ? Sinon qu'il faut faire accélérer la manœuvre, on est là pour ça aussi ?
Absolument, Julien. Là, maintenant, on va éviter de saisir le tribunal. On va les contacter en espérant qu'ils accepteront d'indemniser très, très rapidement notre auditrice.
Dans une seconde, je regarde de qui s'agit-il. Non, je ne crois pas que nous connaissons ces gens-là. C'est la
pas
première
encore.
Fois que nous allons les appeler.
Oui, la première
Bonne
fois.
Occasion pour faire connaissance et pour nous faire de nouveaux amis. Céline, c'est parti. Vous me faites donc le numéro de la Société française de déménagement.
Bienvenue chez AGS.
Bonjour. Allô ? Personne ? Répondeur ? Blanc ? Allô ?
Ah non, il n'y a personne, j'ai l'impression.
Donc il y a juste bienvenue et après
voilà.
Personne. D'accord, c'est bien aussi. Donc là, en fait, on est toujours sur un répondeur muet. Ou alors on a un
j'ai
problème.
J'ai l'impression.
Refaites-le, c'est pas possible. Allez, on refait le numéro une deuxième fois, parce que c'est très bizarre. Bienvenue ! Et puis rien. Attention, ça.
Bienvenue chez AGS. Merci de rester en ligne. Un agent va vous répondre. Afin d'assurer la qualité d'accueil téléphonique et dans
technique.
Le but de...
AGS Paris, Yannick, bonjour.
Bonjour, Julien Courbet à l'appareil, monsieur, c'est la radio RTL. Monsieur, je vous appelle car j'ai une auditrice qui a fait appel à l'émission de radio pour essayer de comprendre un problème qu'elle a eu avec AGS concernant de la casse sur un déménagement. Et alors tout va bien puisqu'AGS a dit ok, on va regarder ça, mais le problème c'est que ça traîne un petit peu. Est-ce que je pourrais avoir... Peut-être, j'ai un numéro de dossier à vous donner si vous le souhaitez pour commencer.
D'accord.
09.
09.
7.
Oui.
78. Vous voulez jeter un petit coup d'œil et on se reparle après ?
Alors, le déménagement a quitté Singapour pour quelle destination ?
Colombier.
Colombie.
Non, pas Colombie, hein, Colombier.
Colombier.
C'est en France.
D'accord. Alors, je vous demande de patienter.
Merci, monsieur. Je patiente, effectivement. On se retrouve, Sylvie, dans une seconde. Ça y est, le dispositif est en place. Charlotte, JB, Hervé, tout le monde a son téléphone à la main. Aucun n'est branché, mais ce n'est pas grave. Ça leur donne l'impression d'être important. Nous, nous le savons, eux aussi. C'est parti, nous réglons vos problèmes sur RTL. A tout de suite pour le déménagement.
Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour.
Ma grand-mère m'a toujours dit qu'un bon petit-déj, c'est le secret pour bien commencer la journée. Alors quand j'ai vu que chez Carrefour, pour deux lots de deux paquets de café carte noire achetés, le troisième lot est offert, j'ai pas hésité et je l'ai dit à tout le monde. Résultat des courses, tous les matins, toutes les filles de la fac viennent boire le café chez moi. Ça, c'est une journée qui commence bien.
Jusqu'au 8 janvier, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, pour deux lots de deux paquets de café carte noire achetés, le troisième lot est offert. Carrefour.
2 x 250 grammes le lot, toutes les offres et modalités sur carrefour.fr.
Comme J'aime. Messieurs, vous voulez perdre du poids ? Alors écoutez bien. Comme J'aime présente son programme Spécial Homme. Vous allez perdre 6 kilos dès le premier mois, c'est prouvé.
J'ai perdu 13 kilos en 3 mois, en mangeant de bons petits plats.
Moi j'ai perdu 15 kilos en 4 mois, j'ai plus de ventre et je me sens en pleine forme.
Testez Comme J'aime et bénéficiez d'une semaine gratuite. 7 petits déjeuners gratuits, 7 déjeuners gratuits, 7 desserts gratuits, 7 dîners gratuits. appelez le 0800 507 507. 0800 507 507.
Comme j'aime, souris à la vie.
Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit.
Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL.
Le déménagement, ça concerne tout le monde. C'est pour ça que nous avons Sylvie qui a déménagé beaucoup de casses, notamment un piano, etc. 5 700 euros. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'entreprise ? Gentiment, elle a dit, faites-nous une déclaration avec une estimation. On envoie ça à notre assurance. Sauf que là, ça traîne. Mais je veux vraiment que vous vous rappeliez de ces règles d'or concernant le déménagement, les délais, ce qu'il faut faire dans les 3 jours, ce qu'il faut faire le jour même, et après, le délai que l'on a dans les jours qui suivent.
La règle d'or sur RTL.
Maître Novakovic, c'est à vous.
Effectivement, dès que vous recevez les marchandises et que vous vous apercevez qu'elles sont détériorées, vous avez 10 jours, jours fériés compris, pour adresser une lettre commandée avec accusé de réception afin d'évoquer ce problème et de demander le remboursement des objets détériorés. Vous devez joindre les pièces justificatives comme les factures, etc.
Hervé Pouchol, est-ce qu'on a du nouveau ?
J'attends une téléassistante.
Ah, parfait.
Ah oui, c'est la première fois que j'entends ce terme.
On vous a dit ça ?
Oui.
Ah bon, très bien. Alors, nous allons avoir une téléassistante. Pour l'instant, on suit le chemin normal, mais assez rapidement, il faudra que l'on ait M. Baudard, le président, ou Mme Sassatelli, la DG du groupe AGS, une grosse société, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Bon, un deuxième cas va arriver dans quelques instants. Il y aura Cécile qui nous dira ceci.
J'ai l'ami de mon fils qui a contracté des crédits sous la menace d'une arme à feu. Et malgré ça, il risque l'interdit bancaire et l'organisme de crédit continue de le prélever.
Et nous allons nous en occuper, mais là, écoutez, ça y est, il chante, vous l'attendiez. Pascal Obispo qui chante le bassin d'Arcachon avec Tombé pour elle, l'île aux oiseaux. En vous souhaitant une nouvelle fois une bonne année. Je vais le répéter souvent, il faudra vous y faire, mais c'est normal.
Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi, je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le canon qui résonne. Ici sur pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur dépose à la dérive, les marées ne me feront revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux, les terres amères, et mon cœur qui se perd. Je suis tombé.